Donc le titre de cette communication est la suivante. Et le suivant, pardon, lecture du Coran aujourd'hui, quelle relation envisageable entre lecture historico-critique et lecture confessante? La question que je vous soumets aujourd'hui est la suivante, donc. Quelle est la relation possible et ou souhaitable entre d'une part une lecture savante et d'autre part une lecture confessante du Coran? Je remplacerai ici l'adjectif savante emprunté à Paul Ricoeur par lecture historico-critique. Je n'emploierai pas ici le terme de conciliation, mais bien plutôt de relation qui demeure plus neutre et qui laisse à la réflexion un espace plus ouvert. Pourtant, je défendrai une thèse, qui est pour moi une conviction. Il y a entre ces deux pôles antithétiques, nous verrons pourquoi j'utilise l'adjectif antithétique, une possible relation fructueuse, mais, et le mais est important là, mais dont la possibilité n'est acquise qu'au prix d'une explicitation des raisons qui la motivent, des critères déterminants et indispensables qui la conditionnent, et enfin des perspectives, selon moi, prometteuses qu'elles engagent pour l'avenir. Pour ce faire, je proposerai, dans un premier temps, de définir le cadre de cette réflexion en explicitant ce que j'entends plus précisément par lecture confessante et par lecture historico-critique du Coran. Cette première étape définira les contours de notre sujet et mettra en lumière la dialectique à l'œuvre entre ces deux pôles qui semblent s'opposer. Mais il y aura des raisons de croire à leur possible mise en relation. Et je voudrais ici questionner dans un deuxième temps les motivations qui conduiraient à passer d'une relation antithétique à une relation d'écoute. Je fais très attention aux mots là, hein, d'écoute, de reconnaissance, et peut-être même d'émulation, peut-être même de coopération limitée, je vais rester très prudent, entre ces deux pôles. Mais si cette relation est souhaitable, si elle est souhaitable, elle est au prix de sévères et rigoureuses conditions que je souhaiterais formuler dans un troisième temps. C'est à la mesure de ces conditions que j'entreverrai quelques perspectives de coopération entre ces deux pôles de lecture du Coran pour une meilleure intelligence de la foi, j'insiste sur le terme, intelligence de la foi, dans le respect rigoureux, vigoureux de la liberté de l'historien et de l'exégèse critique. Là, je suis sur la crête. Je suis sur une crête, là. Je le sais. Vous l'aurez compris, donc, il s'agira de définir un cadre, des motivations, des conditions et des perspectives qui éclaireront cette relation entre ces deux pôles de lecture. Définissons le cadre. C'est le premier temps. Comment définir ces deux formes de lecture? Je commencerai par la lecture confessante. Vous me pardonnerez, je vais faire une présentation très synthétique et qui ne fera pas justice à la complexité du sujet, bien évidemment. Néanmoins, je tenterai de décrire cette lecture selon trois caractéristiques. 1. Ses présupposés. 2. Ses méthodes. Et 3. Ses finalités. Je passe tout de suite aux présupposés. Dans la lecture confessante, le Coran est une communication dont le procès d'énonciation implique des protagonistes, les protagonistes suivants. Il y a un auteur, Dieu, un destinataire premier, le prophète, Mohammed, un média, donc le média c'est le support, c'est le discours coranique, un destinataire, pluriel, second, le croyant, les incroyants, certaines lectures diront l'humanité. Autour de cette communication, un message s'articule autour de trois thématiques centrales et théocentriques, un Dieu créateur, donc la question de la création, un Dieu qui se révèle, la révélation, et un Dieu qui juge, l'eschatologie. Cette communication s'inscrit dans une narration et une temporalité sacrée, inscrite dans l'histoire humaine autour d'une figure centrale, le prophète Mohammed, recevant donc la révélation coranique. On est encore une fois dans la lecture confessante. Hein. Dans ce tableau, un élément est crucial, le canon coranique, le Coran, est strictement fidèle au message reçu. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais bon, restons là-dessus. C'est dans ce cadre général que la raison théologique en islam va se déployer. Voilà pour les présupposés, rapidement, brossés. Maintenant la méthode, les méthodes. Alors je laisse de côté les catégories classiques de lecture littérale, spéculative, mystique, paraphrastique, narrative ou légale. Je n'ai malheureusement pas le temps d'aborder, je voudrais insister sur un point. Je m'attacherai plutôt à souligner la chose suivante. La lecture confessante est en soi une relation constante, une articulation entre trois instances. La lecture confessante est en, une écriture, une articulation entre trois instances, pardon, une écriture au regard d'une tradition, sunnite ou chiite ou autre, qui fait mémoire de la vie ou de l'œuvre de Mohammed et de ses compagnons, et aux prises avec différents contextes, historiques, culturels, linguistiques ou politiques. On pourrait aisément souligner combien la théologie musulmane peut se lire comme une constante actualisation et articulation de ces trois instances, écriture, tradition et communauté de lecture. La méthode consiste dès lors à articuler ces deux instances scripturaires, donc l'écriture et la tradition, pour les faire coïncider avec les attentes de ces différents contextes ou communautés de lecture. J'en viens à la question de la finalité, des finalités. Le discours confessant a pour objet à la fois une liturgie, les modalités du culte, salat, dhikr, une morale, une éthique, le sharia, et enfin une, on va dire une sotériologie, c'est-à-dire c'est au prix d'une fidélité à la liturgie, à l'éthique, qu'un salut est en partie possible. Dans ce paradigme, on l'aura compris, la lecture coranique et la foi islamique ne font qu'un. À travers la lecture confessante, il s'agit d'édifier, de fortifier, de d'éclairer la vie du croyant et de la umma. Passons maintenant à la lecture historico-critique. Je vais vraiment résumer là, hein, par rapport à Guillaume, vous m'en excuserez. Je tenterai donc de nouveau de décrire trop synthétiquement, encore une fois, selon les trois caractéristiques que j'ai proposées déjà, présupposés, méthode et finalité. Les présupposés. Cette lecture définit une attitude générale, la base de cette entreprise, et le doute scientifique. Cette démarche a trois conséquences. 1. L'exposition ouverte, et on le souhaite systématique, de la variété et des contradictions inhérentes aux textes et aux traditions d'interprétation qui lui succèdent. 2. Elle refuse systématiquement la mainmise d'une tradition. 3. Elle interroge directement le texte et recherche les sources de celui-ci. La méthode, bon, Guillaume l'a déjà magistralement présentée, je voudrais insister sur un point, sur cette question de la méthode. La méthodologie s'emploie à appliquer ce que j'appelle moi la confrontation systématique. La perspective elle est soit génétique, elle est génétique, structurelle et intertextuelle. La première, donc, la génétique, procède à l'analyse du texte dans son état le plus originel, celui des manuscrits. On tente ainsi de s'approcher au plus près des possibles intentions de l'auteur, ou des auteurs, ou des rédacteurs, à l'appui des premiers témoignages d'une mise par écrit. Mais on peut aussi procéder également à une deuxième confrontation. Elle voit alors le texte final comparé à une pluralité de hors-texte. Ces derniers s'apparenteraient au Coran par leur concomitance thématique, les genres littéraires mobilisés ou leur date d'élaboration. On distinguera alors des hors-textes en amont, englobant la littérature religieuse et liturgique de l'Antiquité tardive, ce que a magistralement montré Guillaume, mais également des hors-textes de l'entour ou en aval qui désigneraient des textes pré-islamiques et ceux issus des premières communautés interprétantes. Par ces confrontations, l'insistance est donnée à la diachronie et à la perspective historico-critique. Il y a enfin une troisième perspective, l'étude des sources, des processus internes à l'œuvre dans le Coran, s'intéressant aux stratégies du discours, des effets de sens, de l'argumentation, etc. Quelle est la finalité? Le sens du texte est accessible et à chercher dans l'intention de l'auteur. Ce qui est recherché, c'est une contextualisation du fait coranique, qui va donc considérer le Coran comme un document de l'histoire humaine, révélatrice de réalités humaines et historiques. Si on confronte ces deux approches, la comparaison de ces deux instances de lecture permet d'observer des ruptures fondamentales. La première, l'approche critique, met au défi le discours confessant. Elle met en suspens sa certitude et privilégie, Dieu merci, le doute méthodique. Il y a, dans un deuxième point, la remise en cause d'un procès d'énonciation. On ne pourra plus dire, dans cette perspective-là, un auteur, Dieu, on va parler de rédacteur, ou d'auteur, au pluriel, ou un auteur. Elle brise aussi, troisièmement, elle brise le fil narratif de cette narration sacrée. Il y a une remise en cause de la chronologie, Guillaume en a parlé tout à l'heure. Enfin, elle rend justice à la variété des interprétations, en les contextualisant, face aux exclusives de certaines interprétations jugées comme définitives. Ce qui les oppose donc, d'une certaine manière assez criant, tant au niveau des présupposés, des méthodes que des finalités. Pourquoi La question qu'on peut poser maintenant, c'est pourquoi dès lors supposer une relation positive, chose pas possible, entre ces deux pôles de lecture? Quelle finalité à les rapprocher l'une de l'autre? Quel avantage en retirer? En d'autres termes, ne pourrait-elle pas vivre séparément et s'ignorer allègrement? C'est donc la question de la motivation de ce rapprochement qui est posée. C'est le deuxième point que je voudrais aborder, les motivations. Je pense qu'il y a trois raisons pour légitimer une relation entre ces deux pôles, semble-t-il antagoniste. La première est une raison scientifique. Ces deux pôles partagent et se confrontent souvent au même texte. Ou presque. Ne pourrait-on pas dès lors mutualiser des connaissances qui parfois s'ignorent les unes aux autres, les unes des autres? Le bon sens invite à penser qu'elles peuvent partager ensemble certaines observations qui peuvent confirmer, infirmer ou interroger certaines pistes de recherche. Je vous donnerai quelques exemples. De plus, cette mutualisation des connaissances ou des méthodes implique une confrontation des idées qui engage ces deux pôles. Du côté de l'approche critique, on ne peut se départir de la tradition comme source utile, qui permet en conséquence même de la critiquer. D'un autre côté, l'approche confessante peut sans aucun doute profiter de la mise à distance par l'approche critique pour observer à nouveau frais sa propre compréhension d'elle-même. Donc une raison scientifique, qui me paraît de bon sens. Il y a une deuxième motivation, qui est pour moi sociale et politique. Dans un rapport rendu public mercredi dernier, une commission sénatoriale dresse un état des lieux de l'islam en France. Intitulé « De l'islam en France, à l'islam de France, établir la transparence et lever les ambiguïtés », beau titre, ce rapport soulève notamment les questions des financements étrangers et de la formation des imams. Il souligne la nécessité que ce soit sur notre sol que l'enseignement soit délivré. Nathalie Goulet, donc le rapporteur de la mission d'information, précise qu'on peut imaginer un conseil scientifique formé d'intellectuels et de chercheurs qui connaissent l'islam comme une sorte d'école normale de formation des imams qui validerait leur parcours. Il me semble ici que la mise en place d'une formation, de ce type de formation, ne peut évidemment pas se départir d'une formation qui concilierait à la fois l'approche traditionnelle et l'approche critique. L'approche critique étant entendue ici comme une instance de médiation qui, par sa méthode, met en lumière l'archéologie et les développements historiques des traditions à l'intérieur de l'islam, en s'assurant ainsi qu'aucune interprétation ne soit absolutisée. En d'autres termes, cette formation conduirait à faire justice à la polyphonie des interprétations en islam, sunnisme, chiisme, soufisme, etc., sans pour autant nier combien chacune propose un surcroît de sens donné au texte. J'en viens à une troisième raison, une troisième motivation. J'oserais dire une raison culturelle, peut-être même civilisationnelle. Sans vouloir minimiser les spécificités du discours coranique, je soulignerai combien cette lecture critique réintègre le Coran et sa tradition dans ce qui le précède et qui nourrit incontestablement son message et son identité. Je veux parler de sa mémoire biblique, de son environnement, de sa relation entre le texte biblique et ses textes parabibliques, notamment parabibliques. Ces connexions réintègrent le Coran dans le giron culturel de cet héritage judéo-chrétien. J'en donnerai quelques exemples dans ma quatrième partie sur la question des perspectives. Alors, selon moi, on perçoit ici l'intérêt d'une relation positive entre ces deux pôles qui relève à la fois d'un enjeu scientifique, politique et culturel. Mais cela, et je pense que c'est l'élément le plus important de cette présentation, n'est possible qu'à la condition de respecter certains principes et règles. Il faut donc ici insister sur les conditions indispensables quant à sa possibilité, cette relation entre ces deux pôles. J'en viens donc à mon troisième point, les conditions de cette relation. Et j'en vois trois. La première, c'est la reconnaissance mutuelle. D'admettre l'existence de l'une et de l'autre, de la respecter. De ces deux pôles, la reconnaissance n'implique évidemment ni fusion, ni accord. Il peut y avoir des accords. Ni accord, ou encore moins un accord systématique. Il s'agit de bien définir les espaces de compétence de chacun. Reconnaître que chacun de ces pôles a une dignité propre dans son accès à sa vérité, qui demeure, en tout cas, pour le pôle critique, jamais définitive. Je prendrai aussi le terme de reconnaissance comme le fait d'être redevable. Le pôle de la lecture confessante est redevable de la mise à distance. Le pôle critique est redevable de la tradition, car c'est par cette tradition, dans ses contradictions, dans ses évolutions, qu'elle jauge, qu'elle infirme ou confirme certaines de ses hypothèses. Je vous donnerai aussi quelques exemples. Voilà, première condition, je voudrais dire une reconnaissance mutuelle et respectueuse de l'une de l'autre, dans ces différences. Deuxième élément, point fondamental, la liberté. La lecture critique doit refuser toute mainmise et tout encadrement qui viserait à enfermer sa recherche dans un cadre dogmatique ou à la soumettre à une discipline qui limiterait sa liberté de recherche ou orienterait de façon autoritaire son travail. Ainsi conçu, à mon sens, l'exégèse n'est pas une menace pour le pôle confessant. Le pôle confessant doit impérativement respecter et reconnaître cette liberté. Ce qu'a dit Guillaume de manière magistrale et que moi j'appuie totalement. En 1982, Mohamed Harkoun posait une question pour le moins transgressive en intitulant un de ses articles « Le problème de l'authenticité divine du Coran ». L'auteur soulignait déjà à ce propos combien il était vain et sociopolitiquement dangereux, je le cite, en climat islamique, de vouloir trancher le problème de l'authenticité divine du Coran. En réalité, me semble-t-il, l'intérêt de ce titre tient moins à la réponse qu'il faut en attendre, même si sa réponse est magistrale aussi, de Mohamed Harkoun, qu'à la question qu'elle pose. C'est parce qu'elle interroge la nature du phénomène coranique en des termes novateurs qu'elle suscite notre intérêt, dans une totale liberté. J'ajouterai pour ma part que la méthode historique est ici centrale car elle contribue à élucider, par exemple, la participation des premières communautés croyantes à la mise par écrit du texte coranique, ou encore à saisir les étapes historiques qui ont été les préalables à la définition et à l'élaboration du dogme du Coran incréé. Donner une place déterminante à l'approche critique est ici une urgence. Elle est indispensable. En effet, l'histoire est la discipline par excellence qui fait obstacle aux idéologies essentialistes qui font de l'islam un objet anhistorique. Elle est une arme de la raison, une assaise méthodologique face aux dérives brutales et sanglantes des idéologies. Je crois aussi que cette liberté a un corollaire qu'il ne faut pas minimiser. C'est celui du courage, c'est le troisième point. Et l'audace intellectuelle. Je pense notamment aux expériences douloureuses qu'ont pu vivre Nasser Abu Zeid ou Fazlur Rahman, qui n'ont pas pu, d'une certaine manière, ces voies libres n'ont pas pu continuer leur travail dans leur pays. Je crois que la contribution à l'approche critique le courage. Reconnaissance, liberté, courage sont à mon sens donc ces trois valeurs fondamentales qui conditionnent cette mise en relation de ces deux pôles que sont la lecture critique et la lecture confessante. Mais que peut-on envisager de cette relation entre ces pôles si les conditions susmentionnées sont respectées? C'est mon quatrième point, donc les perspectives. La contribution de l'approche critique à une intelligence renouvelée du texte coranique ouvre des perspectives prometteuses pour la lecture confessante. Et je voudrais en donner trois exemples. D'abord, la critique textuelle. Je reprends les catégories que j'ai utilisées tout à l'heure, l'approche génétique, l'approche structurelle et l'approche intertextuelle. Premier exemple, la critique textuelle. Un exemple révélateur est la contribution de la méthode codicologique, donc l'étude des manuscrits, illustrée par l'ouvrage de David Powers, « Muhammad is not the father of any of your men, the making of the last prophet ». Dans cet ouvrage-là, l'auteur s'interroge principalement sur la signification du terme mystérieux « Kalela » apparaissant deux fois dans le Coran. D'abord au chapitre 4, verset 12, et de nouveau au chapitre 4, verset 176. Il propose de résoudre cette difficulté en se fondant sur l'examen d'un manuscrit du Coran, conservé à la Bibliothèque nationale de France. Une analyse paléographique et codicologique indique que le squelette consonantique, donc l'orasme, au niveau du verset 12 du chapitre 4, a été révisé. De sorte que le sens du mot et du verset a subi une transformation radicale. Cette modification s'expliquerait donc dans une intention de clarification d'un verset initial incomplet qui traite des règles contenues dans l'héritage. Ce problème a été résolu par l'ajout d'une législation complémentaire à la fin de la sourate An-Nisa. Ce qui est donc maintenant le verset 176 du chapitre 4. Ce que je veux souligner ici, c'est que le travail critique sur les manuscrits nous permet d'avoir des éléments qui nous informent de l'histoire du texte et comment les premières communautés musulmanes ont été les actrices, ont été acteurs de cette mise par écrit, dans le texte lui-même. Un deuxième exemple, la critique des formes. Je reprendrai ici les travaux de la rhétorique, de l'analyse rhétorique faite par Michel Kuipers, qui illustre parfaitement la démarche qui sensibilise le lecteur aux dimensions relationnelles du texte, à la fois dans ses dynamiques internes, intratextuelles, mais aussi externes, intertextuelles. S'intéressant à l'ordonnancement et au plan du discours, le chercheur a appliqué l'analyse rhétorique, méthode issue des études bibliques, à la sourate 5, El-Maïda. C'est ainsi qu'il met en évidence deux faits majeurs. Premièrement, la sourate est un discours aux allures de testament. Ce constat s'appuie sur des nombreuses réminiscences bibliques, l'alliance avec Dieu, l'interpénétration des genres législatifs et narratifs, les injonctions à l'obéissance de la loi, qui jalonnent la sourate et qui ne laissent aucun doute quant à l'arrière-fond deutéronomique de celle-ci. Deuxièmement, il existe des passages stratégiques disposés rhétoriquement au centre et caractérisés par leur message universel. Cette centralité, qui contraste avec d'autres passages rhétoriques, rhétoriquement placés en périphérie, les met fortement en relief et leur accorde une importance particulière. Ils semblent avoir valeur de principe pour l'interprétation de l'ensemble des versets plus circonstanciés qui les entourent. L'auteur conclut sur la portée éthique et universelle de ces passages, il s'agit de 9 versets, qui tranchent avec le caractère limité et fréquemment polémique du reste de la sourate. Comme l'atteste la méthode, cette approche synchronique s'appuie exclusivement sur le texte de réception. Elle contraste donc à l'évidence avec l'approche diachronique fidèle à la méthode historico-critique qu'on a vue dans le premier exemple. Ce que je veux montrer ici, c'est que l'analyse rhétorique, donc une analyse critique du texte, permet de comprendre le travail de composition, le travail des rédacteurs, d'ordonnancement du texte, qui informe aussi de l'histoire de ce texte et des intentions des auteurs. Troisième exemple, la critique des sources, qui est fondamentale et que, encore une fois, Guillaume a montré de manière magistrale tout à l'heure. Pour exemple, l'analyse comparative des formes polémiques coraniques et talmudiques. Alors, pour faire vite, dans le texte coranique, vous avez très souvent une forme littéraire qui est très présente, que j'appelle le contre-discours, le fait que nous entendons des adversaires dans le texte. Hein. Je vous donne un seul exemple. Chapitre 2, verset 8, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawm al-akhir. Vous entendez ici amanna billahi wa bil yawm al-akhir. Vous entendez ces opposants qui parlent. Bien. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le texte coranique, vous avez ces opposants qui réfutent l'eschatologie. Ils réfutent l'idée d'une résurrection des corps. Vous avez dans les tafsirs un contexte. Vous avez des noms d'opposants. Un contexte qui explique. Qui explicite dans quel cadre le prophète reçoit une révélation pour répondre à ses adversaires sur cette question de la résurrection des corps. Alors ce qui est très intéressant, c'est que je fais un peu le même travail, plus modestement que Guillaume, je m'intéresse donc à cette forme littéraire, et ce qui m'intéresse, c'est de comparer cette forme littéraire avec d'autres textes. Il se trouve donc, j'arrive à lire l'hébreu, et donc je me suis intéressé notamment à l'araméen, j'arrive à lire un petit peu le Talmud, et j'ai constaté que ces contre-discours eschatologiques, vous les retrouvez aussi dans le Talmud et notamment dans le passage du Sanhédrin. Cette mise en parallèle du texte coranique et du texte talmudique permet d'avancer une hypothèse assez intéressante. C'est-à-dire qu'il est possible que ces rédacteurs soient plutôt influencés qui a peut-être influencé par ces polémiques, sans doute, je voudrais dire, judéo-chrétiennes, sur cette question de la résurrection des corps. Et que le Coran soit un écho de ces confrontations entre juifs et chrétiens sur cette question de la résurrection des corps qui n'était pas tranchée lors de l'Antiquité tardive. Voilà encore un exemple d'une mise en parallèle de littérature biblique, parabiblique et du Coran qui permet de resituer le texte coranique et de permettre... je pense que vous avez compris. Je vais terminer... Je vais juste terminer par une conclusion qui me semble à propos. J'espère. Je voudrais reprendre, s'il vous plaît, le propos de Jean Jumsten, qui pourrait un peu résumer ce que j'ai tenté de faire aujourd'hui. J'en ai juste modifié un petit peu le texte, de telle sorte que le terme « Nouveau Testament » soit remplacé par « Coran » et « Église » par « Umma ». Alors, je vous donne son texte. Encore une fois, ce n'est pas le mien, mais j'ai juste modifié ces deux mots. Si le Coran est considéré comme un objet cultuel relevant de la science des religions, la communauté académique et érudite forme son seul lien d'insertion. En revanche, si l'exégèse est conçue comme discipline théologique, c'est-à-dire comme l'écoute d'une parole qui interpelle, qui éclaire et qui suscite une pratique, alors elle est en lien avec la communauté islamique. Cette relation doit être vue comme un compagnonnage critique. Le mot compagnonnage critique, là, je le souligne. L'exégèse doit travailler en pleine indépendance. Elle doit refuser toute mainmise et tout encadrement qui viserait à enfermer sa recherche dans un cadre dogmatique ou à la soumettre à une discipline qui limiterait sa liberté de recherche ou orienterait de façon autoritaire son travail. Ainsi conçu, l'exégèse n'est pas une menace. Tout au contraire, quand les textes sont lus de façon à pouvoir libérer leur potentiel de sens, elle est une chance pour la communauté, la Oumma. Elle est la médiation, c'est ma dernière phrase. Elle est la médiation qui permet à la Oumma, à la communauté, d'avoir accès à sa mémoire créative et libératrice. Je vous remercie.